おかきおかき TKB。
Un aileron pour l'émission Dialogue en tant que Congolais。
Bonsoir, province du Kassaï oriental. À une année de la fin de la législature, quel bilan dressé de la gestion de cette province sur les plans socio-économiques, sécuritaires et politiques? Nos invités sont Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoï Kassangi, gouverneur de la province du Kassaï oriental. Monsieur le gouverneur, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Maître Franck Mpoui Moukankou, ancien rapporteur adjoint de l'Union sacrée radicale de l'opposition, il va nous rejoindre dans un court moment. Maître Soudi Alimassi Timpoutou, expert en décentralisation également, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vos réactions, nous les avons déjà. Trésor Gauthier Kalonji de Lubumbashi au Katanga. D'une manière générale, le bilan adressé est positif quant à la gestion de la province du Kassai oriental. J'ai été en Mbujimayi en novembre 2009 et j'ai trouvé par exemple des routes asphaltées que je n'avais point laissées en pareil état depuis 2 ans. En plus, sur le plan politique, la province du Kassai oriental est l'une des province qui a connu moins d'agitation durant ce mandat, comme ce fut par contre le cas dans les autres provinces avec notamment la destitution des gouverneurs des provinces. Terre de Loibia, de Mbujimayi au Kassai oriental, le bilan des 4 années d'exercice du gouvernement provincial est tout simplement chaotique. Le Kassai oriental est l'exemple type d'une province totalement verrouillée et d'une gestion complètement opaque. Les affaires de la province sont gérées de façon familiale. Sur le plan politique, le gouverneur a réussi à instrumentaliser l'Assemblée provinciale. Les contrôles parlementaires sont fantaisistes, insignifiants et théâtraux. Merci de nous suivre à travers le monde grâce à RadioOkapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Province du Kassai oriental à une année de la fin de la législature, quel bilan dressé de la gestion de cette province sur les plans socio-économiques, sécuritaires et politiques? Billy Van Lutumba, vous êtes l'un de nos correspondants dans la province diamantifère. Avant d'aborder cette question, voyons d'abord avec vous quelles étaient les grandes lignes du discours programme du gouverneur Alphonse Ngoï Kassangi.
Lors de son investiture, Ngoï Kassangi déclare que son gouvernement s'efforcera à désenclaver la province par la réhabilitation des infrastructures internes, relever le niveau d'instruction de la population, particulièrement de la jeune fille, et faire du Kassai oriental un grenier agricole de la région. Autre affiliation que se fixe le gouvernement, la relève de l'économie par une exploitation des ressources minérales et agricoles, l'augmentation de la capacité de fourniture en électricité et l'eau potable. À tout ceci s'ajoute le rétablissement de l'ordre, la sécurité et la paix publique. Sur le plan le gouverneur a rassuré les parlementaires kassaïens qu'ils auront toutes les facilités pour exercer leur mission de légiférer en dotant la province des édits dont elle a besoin pour son développement. Quant aux droits humains, aucune violation ne passera impunie et les auteurs subiront la rigueur des prescrits légaux d'Ngoï Kassangi. En ce jour-là de son investiture, le gouverneur reconnaîtra l'instabilité criante selon ses termes caractérisant le pouvoir coutumier au Kassai oriental, d'où l'engagement qu'il prend à stabiliser le pouvoir coutumier. Devant les élus du Kassai oriental, l'exécutif provincial qui attend son investiture relève que la province n'avait jamais été dotée des bâtiments publics pour son administration, encore moins des bureaux et maisons d'habitation pour les agents et fonctionnaires de l'État. Voilà pourquoi il fallait les construire et réfectionner ceux existants. La relance des deux entreprises minières, à savoir la Liba et la Fingamine, aura besoin d'une implication du gouvernement provincial, souligne le gouverneur dans son discours d'investiture. En définitive, pour mener à bien ce programme, Alphonse Ngoï Kassangi offre pour une politique d'innovation qui influe sur l'offre globale, une politique d'intégration économique et enfin une politique audacieuse qui restaure l'État pour que la province assure correctement ses prérogatives régaliennes. Mbujimayi, Billy Yvan Lutumba, pour Dialogue entre Congolais.
Merci Billy Yvan Lutumba. Monsieur le gouverneur Ngoï Kassangi, j'ai sous les yeux votre discours programme. Je suis à la page 14, je vais lire un passage. Concernant le secteur social, l'administration provinciale s'appellera sous mon impulsion personnelle à mettre en application les grands axes de notre politique. Politique sociale. Primo, de lutter contre la pauvreté. Secondo, de procéder à la réhabilitation sociale des personnes démunies ou des personnes en situation difficile. Et tertio, de lutter contre l'analphabétisme. Monsieur le gouverneur, concrètement sur le plan social, qu'est-ce qui a été fait par rapport à votre discours programme?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sur le plan social,
social d'abord arriver à la gestion à la tête d'une province où il y a absence des investissements. Les investissements étaient quasi inexistants. Il y a les quelques investissements dont celle de la MIBA qui était totalement délabrée. Alors il fallait créer avoir une politique de la création de la richesse. Donc comment on s'y est pris? Il fallait promouvoir l'agriculture d'abord comme priorité des priorités. Donc c'était une façon pour nous de créer de nouveau de la richesse au Kasaï oriental. Étant donné que les emplois étaient vraiment absents, donc il y a les employés de la MIBA qui étaient menacé d'ailleurs, parce que la MIBA était en chute. Alors, on a fait la promotion de l'agriculture comme priorité des priorités par notre arrêté pris en décembre 2007. Donc, pour obliger à toutes les sociétés implantées chez nous à aller dans les champs. Donc, ils étaient tous obligés, sous peine de subir des pénalités. Donc, et cette voie a été acceptée par toutes les entreprises et tout notre peuple qui était essentiellement dans les mines de diamants a obéi à notre mot d'ordre et s'est lancé dans l'agriculture. L'agriculture était soutenue et subventionnée avec des intrants agricoles. On a fait notre premier plan d'abord, l'incitation, la conscientisation de la population à aller dans l'agriculture. Comme résultat obtenu, donc la mesure du maïs qui était à 2500 francs était tombée jusqu'à 400 francs. Si nous faisons le bilan sur 3 ans, nous pouvons l'évaluer autour de 700 francs, ce qui n'était jamais arrivé, parce que le prix du maïs, la mesure du maïs, revenait toujours à au moins 1,5 $ depuis toutes les années. Donc cela a permis qu'on puisse créer de la richesse, parce que les surplus a été exporté sur Kinshasa. Tous les gargots qui viennent à Mujumai ramènent nos produits agricoles à Kinshasa comme l'arachide et l'haricot. On a essayé de travailler sur les réseaux routiers pour désenclaver la province en réhabilitant 1500 km de routes de dessertes agricoles. Dans la ville de Mujumai, on a asphalté plus ou moins 20 km de routes. Dans le domaine de l'éducation, nous avons plus ou moins 50 écoles construites et plus ou moins 6 écoles réhabilitées et une dizaine d'écoles en voie de construction sur toute l'étendue de la province. Et on n'a pas seulement regardé l'enseignement primaire qui est de notre compétence, on a également travaillé dans le domaine de l'enseignement supérieur, en appuyant les institutions universitaires en équipement, en chaises en plastique, en tôle, etc., etc. Dans les domaines sanitaires, on a construit les hôpitaux, donc nous avons plus ou moins 66 structures sanitaires réhabilitées, 24 en cours de réhabilitation. Nous avons l'agrandissement de la capacité d'accueil de l'hôpital général de référence de Kansele. À Tchilengé également, on a construit une maternité et on a agrandi les structures d'accueil. À Kabinda, on a fait la même chose et on est en train de construire des centres de santé sur toute l'étendue de notre territoire, dans tous les territoires.
Oui. Monsieur le gouverneur, permettez que je vous arrête à ce niveau, juste pour vous permettre de nous donner quelques précisions. On sait aussi que quand on parle de la ville de Mbujimayi, elle rime un peu avec l'érosion, avec le problème d'électricité et d'adduction à l'eau potable. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ce domaine-là aussi?
Oui, la lutte contre les érosions, c'était notre cheval de bataille. On ne s'est pas reposé depuis qu'on est en fonction. On a carrément arrêter les érosions qui menaçaient, par exemple, les régions qui menaçaient les tarmacs de Mbujimayi a été stoppé net. Nous avons réhabilité la circulation routière, c'est-à-dire la sortie de la ville de Mbujimayi à partir de la nationale numéro 1 Depuis plus de 20 ans, cette route était coupée par une forte érosion. On vient de dresser un pont qui permet aujourd'hui d'emprunter cette route et d'aller directement à Kananga sans faire des tours dans la ville, 30-40 minutes pour sortir de la ville de Mbujimayi. On a stoppé également la progression de l'érosion mobile qui menaçait l'avenue de l'université. Et à Mouneditou, par exemple, on a stoppé également la progression de l'érosion qui menaçait les rails, le chemin de fer. Donc, on a travaillé partout, à Kabinda également, on a fait la lutte anti-érosive, notre cheval de bataille. Et de ce côté-là, on a des avancées significatives, même si on n'a pas terminé toutes les érosions. Donc, le travail est en cours. Également, en ce qui concerne la desserte en eau et en électricité, nous pouvons vous dire que la desserte a été plus ou moins moyenne en ce qui concerne la ville de Mbujimayi et sur l'ensemble de notre territoire, dans des cités où il y a la régie des eaux. On y a travaillé avec l'aide de l'Hydroforce et de la MIBA.
Merci.
Donc, notre population a plus ou moins de l'eau. Et nous avons l'éclairage public. Vous pouvez venir dans la ville de Mbujimayi. Depuis 5-10 ans, une telle situation n'était jamais arrivée. Donc, la ville de Mbujimayi est éclairée. Et je crois qu'il y a des avancées significatives dans ce sens.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Franck Mpoimukanku, bonsoir, vous êtes en ligne. Vous êtes ancien rapporteur adjoint de l'Union sacrée radicale de l'opposition. Vous venez de suivre le gouverneur Alphonse Moïka Sangi qui a dressé un bilan et qualifie ce bilan. Il dit qu'il y a beaucoup d'avancées significatives par rapport à ce bilan. Quelle est votre analyse à vous? Vous êtes sur place en Mbujimayi.
Merci beaucoup. Je salue son excellence, monsieur le gouverneur. Et je m'empresse au devoir de préciser d'abord que c'est le bilan de la gestion d'un gouvernement ou d'une province comme la nôtre ne peut pas être fait sur le média. Il faut absolument qu'un contrôle approprié par la Cour des comptes soit fait pour qu'on puisse établir les choses de manière claire. Mais en tout état de cause, il est important qu'on informe notre population par rapport à ce que le gouverneur vient de dire. Le gouverneur vous parle d'un certain nombre de réalisations. Mais nous sommes en matière administrative, la gestion administrative d'une population. Parce que l'administration qui compte, il y a des règles. L'administration régit par le principe de la légalité. Ce principe est-il respecté, oui ou non? Alors, je vous informe, à partir du moment où l'institution provinciale, le gouvernement de province, l'assemblée provinciale, ne connaissent pas un fonctionnement normal suite à un copinage mortel entre l'institution gouvernement et l'assemblée, vous pouvez comprendre que le reste en fait est tout à l'unité une catastrophe. C'est-à-dire quoi concrètement? Le gouverneur ne vous a pas dit, il vous parle des écoles. Bien sûr, j'ai précisé, ce n'est pas à la radio qu'on doit préciser les choses. Mais il ne vous dit pas comment on a attribué les marchés publics. Les marchés publics sont régis par des principes. Mais si vous précisez de quelle manière les marchés des travaux publics ont été attribués. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Combien d'écoles ont été faites, combien d'hôpitaux ont été réalisés et appréciés? Qui a fait ces écoles? Lorsque la CTB intervient, ce n'est pas le gouvernement provincial. Lorsque le partenaire extérieur intervient, ce n'est pas le gouvernement provincial. Lorsque le gouvernement américain vient, par exemple, de donner des moustiquaires en termes de millions de moustiquaires imprégnés, ce n'est pas le gouvernement provincial. Ce n'est pas lorsque vous allez inaugurer un travail fait par le fonds, fonds social de la République, que le travail a été fait par le gouvernement provincial. Qu'on nous précise qui a fait quoi, quand et où. Lorsque vous parlez, par exemple, de routes dans la région urbaine de Mbujimayi, mais ce sont des travaux, de travaux publics. Comment ont été attribués ces travaux? Et combien a coûté, la population doit connaître, les Congolais du Kassai oriental aimeraient connaître, combien a coûté le kilomètre de route de son argent, l'argent du gouvernement, parce qu'on n'explique pas très bien les choses. C'est l'argent de la maman du marché des Bicessa, de maman du marché de la Mouya, qui contribue à la construction d'une route. Mais lorsqu'on vous dit qu'on s'est débrouillé avec ses propres moyens, sans expliquer clairement de quoi il s'agit, c'est le boulevard du mensonge et de la corruption. On nous dit combien nous a coûté au kilomètre une route saute en bout du mal. Parce que nous connaissons les types de routes. Type de route qui coûte 500 000 dollars au kilomètre, soit 1 million au kilomètre. Combien de routes on a fait en Bougimal? Il y a plus de 50 km de route en Bougimal. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des indications, ce n'est pas 20 km, comme on le dit là. Et soit que ce soit 20, ça sera peut-être moins de 50%, parce que nous avons 45 km de route dans la ville de Bougimal. Mais le route qui ont été faites, à ma connaissance, c'est 9 km. Alors, combien nous a coûté la route au kilomètre? Quel a été les dégâts? Quel a été le plan? Est-ce que l'ouvrage complet a été fait avec les caniveaux, les grains et ainsi de suite? Quel type de route, lorsqu'on constate qu'au kilomètre, les routes ont été faites, mais au bout de quelques mois ou de quelques jours, la qualité ne répond pas aux règles de l'art? Il y a des trous partout. C'est quel type de route qu'on a livré à notre population? Il ne faut pas tromper la population. Dites la vérité. Dites-nous, la route a coûté combien au Congolais du Kassai Oriental? Les écoles ont été faites par qui? En termes de réhabilitation, de construction, et ainsi de suite. Toutes les questions-là ne sont pas clarifiées.
Maître Franck Mpoy, merci, je vous sens très déchaîné. Je vous demande en même temps un peu de courtoisie dans les propos. L'émission est pédagogique, c'est afin de permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous dites. Le gouverneur a aussi parlé de la promotion de l'agriculture.
Non, excusez-moi. J'ai été impoli à tel point de vue lorsque je demande le coût de route par kilomètre. Mon cher ami, ne faites pas, je dis de l'obscurantisme.
Je pense
que beaucoup de respect pour la radio capitale.
Maître Franck Mpoy, je vous demande un peu de courtoisie, s'il vous plaît. Je pense que c'est moi qui pose les questions. Je vous ai dit que le gouverneur a parlé de la promotion de l'agriculture. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Je viens de faire des indications sur certains aspects. Parlons de l'agriculture. L'agriculture a été déclarée priorité des priorités. On ne revanche pas la route, ce n'est pas aujourd'hui que cela a été déclaré. Que ça soit déclaré par le gouverneur, très bien. Merci, monsieur le gouverneur. Mais aujourd'hui, combien coûte la mesurette de farine de maïs? Est-ce que la vie du paysan a changé? Est-ce que le paysan a changé les conditions de travail? Travaille-t-il avec la roue ou la culture est mécanisée? Je ne sais pas si cela manque de courtoisie. Est-ce que le paysan, à la suite de la déclaration sur l'agriculture priorité des priorités, il a changé la forme de sa case, de cette amélioration de son travail, de son quotidien? A-t-il réussi à accéder aux soins médicaux grâce à son travail d'agriculteur? A-t-il changé de condition de vie? Ce sera. Donc, j'ai conclu que la déclaration de son force, monsieur le gouverneur, il est dans des actions d'éclat. Il n'y a pas une politique agricole mise en place pour permettre le changement de conditions de vie dans le milieu rural par le travailleur agricole, ni dans la ville. Combien avons-nous exporté dans le Katanga? Voilà. Donc, merci. Pour moi, la déclaration entre la déclaration de l'agriculture priorité de priorité, il ne suffit pas de manger le foufou ou la farine de maïs. Encore faudra-t-il que les conditions du paysan changent. Merci. Et que cela a changé. Maintenant, nous avons des engins, des facteurs, comment ont-ils été distribués sur l'opacité. Est-ce que la présence des tracteurs aujourd'hui a changé? Quel est l'impact de ces tracteurs? Est-ce que la production a augmenté? Ce sont des actions d'État.
Merci, merci, Maître Franck Mpoy Mukankou. Maître Soudia Limassi Kimputu, bonsoir. Vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Vous êtes expert en décentralisation. Vous avez suivi tour à tour, monsieur le gouverneur Alphonse Noël Kassangi et Maître Franck Mpoy Mukankou. Quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer nos auditeurs de la radio Okapi. Et à cet instant où nous faisons une sorte d'évaluation à haute voix, je voudrais d'abord commencer par signaler que la province du Kassai Oriental est l'une des rares provinces qui a jusqu'alors connu une stabilité des institutions provinciales depuis le lancement de la mise en œuvre du processus de décentralisation. C'est-à-dire qu'on connaît un tour de rôle de remplacement du président des assemblées provinciales ou des gouverneurs de province. Je félicite aussi le gouverneur de province sur les quelques actions qu'il a essayé d'évoquer. Néanmoins, avec l'aide d'experts, nous avons quelques observations à faire. Par rapport à tous les éléments qui venaient d'évoquer, il y a un problème sérieux sur la question du développement durable, parce que la décentralisation vise un développement durable. Est-ce que les investissements, quand ils ont parlé de réhabilitation et ainsi de suite, est-ce que toutes les actions menées dans ce sens contribuent au développement durable de la province? Sur base de quels fonds ces investissements ont été réalisés? Parce qu'il ne faut pas oublier que la décentralisation, elle est à la fois une décentralisation des compétences et des ressources aussi. Parce que je sache, il y a un problème réel qui se pose au niveau de toutes les provinces aujourd'hui. D'abord, à ce qui concerne les chiffres qui est dû en termes de rétrocession ou de retenue à la source, le fameux problème qui s'est toujours posé. Et en ce jour, nous avons un grand débat sur la problématique de la création des taxes pour permettre à ce que les provinces puissent disposer des moyens essentiels pour faire des politiques. J'ai suivi beaucoup d'actions, mais je me pose des questions. Si ces actions-là sont vraiment des relèves de l'investissement durable, du développement durable, comme nous le souhaitons dans notre décentralisation, les fonds ont été poussés où? Parce qu'il y a un problème réel de fonds qui se pose dans toutes les provinces, même la province du Katanga. Alors, l'autre problème, c'est la question, la décentralisation elle-même. Comment ces actions sont réalisées? À mon avis, parce que nous travaillons là-dessus, voyons que c'est le gouvernement provincial qui fait tout. Alors qu'il y a des tranches qui doivent être réalisées par les entités de base, qui sont des communes, des secteurs, des chefferies, qui sont dans la province orientale. Pourquoi cette centralisation? C'est une question, mais c'est une observation. Nous avons remarqué aussi qu'il y a j'ai parlé de la stabilité des institutions, mais il y a un faible contrôle parlementaire. Un faible contrôle parlementaire, c'est ce qui fait que, dans la gestion moderne, aujourd'hui, le contrôle parlementaire ne signifie pas à faire des motions comme on l'a suivi dans d'autres provinces. Mais l'Assemblée provinciale doit, au jour le jour, chercher à connaître tout ce qui se passe au niveau du gouvernement provincial. Parce que dans la province de Kassai Oriental, à moins que le gouverneur puisse me donner un argument contraire, nous avons appris qu'il y a même certaines actions de l'exécutif provincial qui sont réalisées par les députés provinciaux dans leurs entités, dans leurs électorats. Ça, c'est une violation et de la Constitution et de la loi sur la libéralisation du pouvoir qui prône la séparation du pouvoir. Donc, nous pensons que sur ce point de vue, il y a l'Assemblée provinciale ou les députés provinciaux qui s'insèrent dans une sorte de complicité dans les actions de l'exécutif. Voilà un peu, de façon ramassée, quelques points que nous avons partagé avec son excellence monsieur le gouverneur sur l'ensemble des points de vue qu'il a évoqués.
Merci maître Soudi Alimasi Kimputu. Cette question sur le bilan de la gestion de la province du Kassai Oriental préoccupe également les citoyens de cette province. On écoute certains d'entre eux donner leur appréciation au micro de Billy Yvan Lutumba.
Il y a eu beaucoup d'avancées, surtout dans le secteur routier, dans le secteur alimentaire, les mécas, les maïs, qui ne coûtaient pas seulement cher, mais qui étaient devenus rares, ça ne pose plus tellement de problèmes. Sur le plan sécuritaire, on a pratiquement mis terme au phénomène, quand tu l'as dit, des bandits armés, les phénomènes suicidaires.
C'est clair que le bilan est vraiment négatif. Sur le plan sécuritaire, il y a une petite réussite parce qu'il y a diminution des dégâts. Et sur le plan socio-économique, c'est vraiment un échec. On a poussé à aller cultiver, mais il n'y a pas eu un plan très bien établi. C'est ainsi que vers la fin, nous avons constaté qu'il y a eu augmentation de prix de maïs, Alphonse Catolo, le Mujimaï. Les autorités n'ont pas institué une bonne politique sur le plan travail. Nous avons beaucoup de chômeurs. La disponibilité de la main-d'œuvre est là, mais on ne s'occupe pas des gens. Le bilan est en soi.
Moi, c'est le bilan au niveau de la province de Kassai Oriental, pratiquement, on dirait, il est positif. Nous avons répondu positivement aux solvants de faire de l'agriculture priorité de priorité. Et à partir de là, nous sommes. Nous avons quand même relevé notre économie. Aujourd'hui, nous avons mangé trois fois par jour.
Le bilan est vraiment négatif ici chez nous. Et nous sommes une province vraiment enclavée par rapport à des routes, des cercles agricoles, de la voie ferrée, impraticable. Jusque là, on n'a pas gestionné. Les petits commerçants sont devant beaucoup de difficultés. Il y a multiplicité des taxes.
Monsieur le gouverneur Alphonse Ouéka-Sanji, vous venez de suivre certains habitants de Mbujimaï qui s'expriment sur le bilan, hein, sur votre gestion. Mais tout à l'heure, Maître Franck Mpoimukankou et Maître Soudi ont presque posé la même question. Qui a construit toutes ces réalisations dont vous parlez, avec combien? Et aussi, vous avez ramassé certaines observations de Maître Soudi.
Ok, merci beaucoup. D'abord, j'ai un sérieux problème avec Maître Franck, qui ne comprend pas très bien la notion du budget. Donc, je crois qu'il doit d'abord comprendre la notion du budget. Et il habite la ville de Mbujima, il habite la province de Kassai Oriental. Il ne connaît pas. Et chaque année, le gouvernement provincial présente le budget. Et avant de présenter le budget pour l'exercice budgétaire annuel, on revient sur l'exécution du budget de l'année précédente. Et là, les coûts de route, de construction de route, revient en ce moment-là. On détermine tous les budgets qu'on a votés, on a déterminé les coûts des œuvres réalisées, de construction des écoles, asphaltage des routes, tout ça s'est fait quand on élabore le budget et quand on fait le rapport de l'exécution du budget de l'exercice budgétaire précédent. Donc voilà ce que je dois d'abord dire à Maître Franck. Il doit comprendre la notion du budget et quand le gouvernement provincial présente le budget, il doit être là, il est citoyen de ce pays, il est habitant de la province orientale, il doit participer à ça. S'il avait participé à ça, il ne poserait pas la question sur le coût des différentes réalisations. Donc ça m'a étonné, parce que quand on a asphalté le boulevard Laurent-Désiré-Kabila, on a donné le coût. Donc le coût était là. Et le maître Franck, qui habite la province du Kassai Oriental, sait très bien que le gouvernement provincial a été contrôlé par la Cour des comptes. Différents contrôles s'effectuent. Il y a les inspecteurs de finances, il y a la Cour des comptes qui a contrôlé l'exercice budgétaire 2007-2008. Aujourd'hui, il évoque les contrôles de la Cour des comptes. Nous, on est vraiment démocrates, on est les élus du peuple, et on n'est pas étonné, donc on n'est pas surpris par un contrôle de la Cour des comptes. Et il a parlé du copinage. Pour lui, pour le maître Franck, quand aux États-Unis, le président Obama fait voter un budget et il n'a pas la majorité à leur Assemblée nationale, au Parlement, il discute avec les députés du Parlement et même les députés du Parti conservateur vote cette loi, pour lui, c'est le copinage.
Mais monsieur le gouverneur,
qu'il y ait des problèmes, des troubles, quand il y a une cohabitation pacifique, pour lui, il appelle ça copinage.
Monsieur le gouverneur,
il aurait souhaité qu'il y ait des problèmes.
Monsieur le gouverneur, en un mot, Maître Sou dit, en parlant pratiquement de la même chose que Maître Pompoy, a parlé du faible contrôle parlementaire, juste en un mot.
Mais écoutez, nous sommes le gouvernement le plus contrôlé par l'Assemblée provinciale. Donc, et partout quand nous suivons, à travers les médias, les contrôles, très pratiquement, je ne connais pas les cas des différentes provinces, mais pour ce qui nous concerne, chaque année, il y a un contrôle parlementaire. Pour Maître Franck, il faut que le contrôle parlementaire aboutisse à une motion de défiance, à ce qu'on dise qu'il y a des détournements, tant même qu'il n'y a pas de détournement.
Donc, merci, monsieur.
Je ne sais pas, l'expert qui a parlé, je pense que parler de l'exécution des travaux par les députés, je pense qu'on doit faire la part des choses. Il y a des députés qui ont des entreprises de construction. Je donne l'exemple de l'ingénieur Moukendi Chambola, qui est député national, qui a une entreprise de construction. Donc, quand il construit, quand sa construction construit, donc pour lui, donc à ce moment-là, on peut dire que les députés ne sont pas construits s'ils ont des entreprises de construction. Mais je sais que le gouvernement provincial s'acquitte de son devoir d'exécuter son programme, lui assigner et le budget pour chaque exercice budgétaire. Donc,
merci, monsieur le gouverneur.
Mais je crois que Maître Franck a évoqué beaucoup de choses.
Merci. Monsieur le gouverneur, permettez que je vous arrête à ce niveau. Je vous prie de ne pas personnaliser le débat. Avant de donner la parole à Maître Franck Mpoyi-Mukankou, nous avons écouté d'autres auditeurs de la ville de Mbujimayi.
Mais ça va de Alessico. Donc, nous portons d'abord, au niveau américain, nous disons bien. C'est-à-dire, nous sommes sur le capitaine Bamouné du Tocoto.
Moi, c'est Pédi de Mbujimayi. Le bilan est négatif. Quand on prend le côté économique, il y a une crise très aiguë. Le chômage bat son plein. Nous avons une population pratiquement à plus de 95% désœuvrée. Sur le plan politique, il y a de l'intolérance. On ne sent pas qu'on a une assemblée provinciale. On a une assemblée de députés qui sont là pour boire, manger, danser à la gloire du gouverneur.
Lambert Kalala, le bilan est quand même positif. Hein? Avant, on n'avait pas assez de routes. Maintenant, nous voyons quand même petit à petit. Hein? On n'a pas dit que tout a été bien fait, mais c'est encourageant. Nous avons quand même senti une certaine sécurité. Hein?
C'est tout simplement non? Le bilan est négatif. Sur terrain, la démocratie n'est pas réelle.
J'ai Kayembe, au Kassai Oriental. Le score était vraiment au rabais. Mais avec l'avènement du gouvernement provincial, on constate maintenant qu'il y a un engouement. Dans la Balende, le type de l'Aïs Mandou, on fait leur. La apparition sur la scène nationale.
Maître Franck, Poi Mukanku, vous dites un mot sur ces réactions des auditeurs et vous réagissez aux propos du gouverneur Moïse Sangi et de Maître Sylvia Limassi.
Oui, avec beaucoup de respect à son excellence, monsieur le gouverneur et aux autres intervenants, il reste constant que la mise en place des institutions provinciales, c'était pour répondre à un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse. Parmi ces questions pour la province du Kasaï oriental, même l'homme le plus analphabète, c'est l'eau, l'électricité, la santé, le routeur. Monsieur le gouverneur, peut-il confirmer si la population du Kasaï oriental voit de l'eau la population du Kasaï oriental à ce moment voit de l'eau impropre à la consommation. Il voit l'eau de la Lubélangie, il voit l'eau de l'étang de la Mouya, du monde arabe, l'eau polluée par l'exploitation minière des Amiba. Cette eau a été consommée par la population pendant 15 jours. Et c'est à ce moment-là que notre gouverneur, son excellence Mouyakas, a choisi d'aller en Turquie sans nous expliquer quel était le motif de son voyage. Parce que s'il doit voyager, c'est pour notre compte. Il est revenu pendant après 15 jours, les gens sont restés sans consommer de l'eau et nous avons initié une action contre le gouvernement et contre la régie des eaux et contre même les députés. Écoutez, la situation est extrêmement grave en Mouyakas. La population voit de l'eau impropre à la consommation. Mais le gouverneur vous dit, il soutient, que nous avons l'accessibilité à l'énergie électrique. Combien coûte la consommation domestique? Ça varie entre 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars. Aujourd'hui, la malnutrition, selon les experts, contrairement à ce qu'a dit, un concitoyen qui s'est dit expert, nous avons 85% de la population qui sont sans couverture alimentaire. Ça, ce sont les experts des Caritas qui donnent ces statistiques. Aujourd'hui, vous voyez à Kinshasa, il y a le phénomène moto. Ce sont les petits hommes d'affaires des Mbujimayi qui sont organisés ici, qui se retrouvent avec l'exploitation des motos à Kinshasa, avec du Croix et à Lubumbashi. C'est l'exode. L'exode de la population kasaïenne vers d'autres contrées, même là où ils ont été contrées à partir pour leur terre natale. Ils sont rentrés, heureusement que la constitution existe, ils vivent là-bas. Ils sont partis à leur corps défendant parce qu'ils n'ont pas trouvé des conditions essentielles en Mbujimayi alors qu'il existe un gouvernement provincial. Son Excellence parle de copinage. Effectivement, nous connaissons. Attention, ici le gouverneur connaît tout le monde connaît le gouverneur. Tout le monde connaît le bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée connaît tout le monde. C'est le propre d'une petite ville. Quelle est la situation qui prévaut en Mbujimayi, s'il vous plaît, mon frère? Aujourd'hui, nous avons l'accroissement des enfants communément appelés chefs dans toute la ville. Il y a même l'accroissement des mariages précoces. Il y a des mineurs dans des mines. Le pouvoir provincial est indifférent. Aujourd'hui, il y a la fermeture des maisons de commerce. Ceux qui connaissent Mbujimayi, qui sont ailleurs, à Kinshasa et ailleurs, si Nice n'existe plus, il n'y a plus de maisons de commerce. Tous les gens commerçants sont partis. Ça veut dire quoi? C'est la croix sur la province. C'est la catastrophe, c'est une calamité. Ceux qui disent que le gouvernement provincial travaille bien, ils se trompent. Ils sont en train de voiler la vérité. La vérité, c'est celle que je suis en train de dire en tant que citoyen. Ma citoyenneté m'oblige de dire la vérité.
Merci.
Les gens qui partent de la ville de Mbujimayi vers Kinshasa, cet exode-là n'a jamais existé. Ça veut dire quoi? Les conditions d'existence à Mbujimayi se sont détériorées. La province se désagrège. La province va très mal.
Merci, maître.
Ok. Sur le plan de fonctionnement des institutions, les autres concitoyens l'ont précisé.
Il y a un plan
de fonctionnement des institutions. Prenons par exemple à la défenestration du bureau de l'honorable Kabbalah, dont les conditions n'ont pas été élucidées aujourd'hui. Il y a eu plus ou moins 20 édits qui ont été pris. On a pris un édit sur la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement peut-il nous dire quel est l'impact de cet édit dans la province? Cet édit est-il appliqué, oui ou non? Les enfants bénéficient-ils de la gratuité de l'enseignement, oui ou non?
Merci,
le gouverneur.
Merci, maître.
Dites-moi un peu, s'il vous plaît.
Maître Franck, permettez que je vous arrête également à ce niveau, le temps de donner la parole à Maître Soudi Alima Sikimpoutou. Maître Soudi, à cet auditeur David de Kalimio Katanga qui dit: on peut dire que ce premier mandat a été pour nos élus une école, nous ne leur accorderons aucune excuse pour un second mandat, car nous avons besoin d'action sur terrain, Maître Soudi.
Oui, bon,
j'ai pas la même lecture que cet auditeur-là. Je crois que dans la partie de l'intervention, elle est bonne, c'est une école. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la province du Kassai oriental, c'est un exemple pour la stabilité des institutions provinciales.
Stabilité réelle ou apparente?
Réelle ou pas, je crois qu'il y a une stabilité parce que nous n'avons pas connu le même mouvement comme dans d'autres provinces. Ça, c'est très positif. Mais nous devons maintenant évaluer la gestion des institutions provinciales. C'est comme quand je parlais du faible taux de contrôle. Cette question ne concerne pas seulement l'exécutif. D'ailleurs, elle relève de l'Assemblée provinciale. C'est une des compétences de l'Assemblée provinciale. Si l'Assemblée provinciale ne l'a pas assez fait, et prenant en compte que les gens de la société civile du Kassai oriental disent qu'il y a quelque part quelque chose qui n'est pas exécuté conformément à ce qu'ils demandent de nos lois. Et moi, à mon avis, je ne pense pas que le contrôle parlementaire est synonyme de motion de défiance ou de censure. Non. Le contrôle, donner la possibilité aux élus du peuple de connaître au nom de la population qu'il a élue tout ce qui se passe et d'orienter certaines choses. Parce que j'ai entendu un auditeur parler de la question d'attribution des marchés. Bien sûr, nous avons suivi, il y a des très belles réalisations que le gouverneur a évoquées. Est-ce que ces réalisations se passent dans les normes en utilisant les outils nécessaires de gestion qui sont recommandés aujourd'hui dans une gestion moderne d'une décentralisation? C'est là que je suis.
Maître Soudi, on se souvient qu'il y a très peu de temps, le président du Sénat, Léon Kengouadondo, avait déclaré que les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux n'ont rien amélioré à la vie de nos provinces. Comment vous analysez cette déclaration près de 4 ans après le fonctionnement des provinces?
Non, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec le président du Sénat. Il y a des exécutifs provinciaux qui font quelque chose. Il faut commencer quelque part. On ne peut pas aller directement à un résultat extrêmement positif. Il faut commencer quelque part. C'est en constatant les erreurs qu'on peut avancer et améliorer au fur et à mesure. Nous sommes dans un premier exercice. Je ne sais pas si vous ignorez que notre pays est en train d'appliquer un régionalisme politique avec des particularités au-delà de ce que les pays classiques qui ont utilisé ces méthodes-là ont commencé. Vous pouvez prendre l'exemple de l'Italie qui a pratiqué ce régionalisme politique. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de mécanismes qui encadrent. Mais chez nous, nous voulons aller tout droit, avec même nos lois, telles qu'elles ont été faites. Il y a un problème dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, il faut commencer quelque part. Il y a des exécutifs provinciaux, des assemblées provinciales qui font du bon travail, mais qui sont aussi bloquées, compte tenu de tout ce qui a été mis dans la Constitution, dans les lois nationales qui doivent être élaboré au préalable, avant qu'ils puissent prendre des édits pour la mise en œuvre effective de certaines dispositions qui permettent aux exécutifs provinciaux de mettre en œuvre certaines dispositions. Tout ça, ça entre en ligne de compte.
Merci.
Lorsque vous analysez techniquement toutes ces questions, il y a certains exécutifs qui sont bloqués à cause de ça, compte tenu des spécificités de leur province.
Merci.
À l'heure, nous devons analyser et voir ce qui est déjà fait. Est-ce que ça a été bien fait? Si ça n'a pas été bien fait, qu'est-ce qui a approché? C'est le cas du Kassai oriental. Moi, je félicite le gouverneur de province parce que toutes ces actions ne sont pas faites ailleurs. Mais comment ces actions ont été réalisées, c'est là que nous sommes.
Merci, Maître Soudi. Avant de donner la parole à M. le gouverneur Alphonse Loïc Kassangi, gouverneur de la province du Kassai oriental, prenons ces questions d'auditeurs.
Honorable collègue, au dernier acquis d'Angané, la gestion des provinces de la RDC est chaotique. Il y a coalition entre les gouverneurs et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale afin de se servir au détriment de la population. La corruption de la majorité des députés provinciaux qui les empêche de contrôler efficacement le gouvernement provincial. Les opérations retour pour les parrains qui sont à Kinshasa et enfin manque de vision politique en province.
Marcel Wessekunda de Kinshasa à Montafou. Que le gouvernement, en mettant avec l'application du principe constitutionnel de la gratuité de l'enseignement primaire dans le secteur public, est-ce que vous avez pris des arrêtés dans ce domaine et que pouvons-nous retenir en termes de frais supprimés et de frais que les parents devraient continuer à payer? Et la seconde, enfin, se rapporte au phénomène du travail des enfants de dans le Nil. Est-ce que vous avez pris des mesures dans ce domaine et comment évaluez-vous aujourd'hui l'efficacité des mesures et quelles sont les perspectives à venir dans cette matière?
Monsieur le gouverneur Alphonse Noël Kassangi, brève réaction, je vous en prie, par rapport à ce qu'ont dit ces auditeurs.
Oui, d'abord, monsieur les journalistes, je dois exprimer mes regrets parce que quand vous donnez du temps à quelqu'un qui parle, qui méconnaît toutes les actions menées par nous, et quand vous revenez vers nous, vous ne nous donnez pas du temps pour répondre à toutes.
Monsieur le gouverneur,
de réagir
monsieur le gouverneur,
les questions des auditeurs, mais sur les préoccupations soulevées par Maître Franck, vous lui avez donné beaucoup de temps, mais vous ne donnez pas suffisamment de temps au gouverneur.
Monsieur le gouverneur,
pour éclairer la lanterne des auditeurs.
Monsieur le gouverneur, j'ai un chrono devant moi. Vous avez 12 minutes et 30 secondes. Maître Franck,
voilà.
Vous avez 11 minutes et 58 secondes. Donc vous êtes en avance de parole.
Voilà, je commence par répondre d'abord à M. Mpoyi qui parle de la consommation de l'eau de la Lubilanji. C'est comme ce que je venais de dire, c'est comme si M. Mpoyi n'habite pas la ville de Mbujimayi. Il ne connaît pas que même les quartiers qui n'ont pas les réseaux régis des eaux ont aujourd'hui un réseau d'alimentation en eau potable. Donc, il y a des forages qui sont en train d'être faits pour desservir 300 000 personnes qui habitent les alentours, les quartiers périphériques de la ville de Mbujimayi. Donc, il n'y a jamais eu de l'eau de l'Ubilanji consommée par la population. S'il peut y avoir une perturbation, par exemple, quand il y a eu la tsunami en Asie, par exemple, des calamités naturelles, une situation qui intervient et où la conduite d'eau est coupée par un éboulement, donc le gouvernement provincial s'y est employé, a travaillé pendant les 15 jours et on a réhabilité la situation et l'eau a été desservie à la population. Donc, mettre en police, c'est comme s'il n'habite pas la ville de Mbujimayi. L'exode des populations, moi je crois que chaque commerçant, chaque peuple ou chaque citoyen est libre d'habiter là où il veut vivre, là où son commerce prospère. Moi, j'ai vu ici des commerçants qui viennent des États-Unis, mais qui viennent s'implanter ici, qui ouvrent leurs activités ici. Ça, c'est pas un problème quand quelqu'un peut quitter la ville de Mbujimayi, aller s'installer à Lubumbashi. C'est pas un problème. Donc, nous pouvons répondre à certaines situations. Quand il parle de l'eau
monsieur le gouverneur,
de l'Amiba, salie par l'exploitation des mines de l'Amiba, il oublie que l'Amiba est en fermeture depuis plus de 2 ans.
Monsieur le gouverneur,
l'Amiba ne travaille pas et que donc il ne salit pas l'eau, ne pollue pas l'eau.
Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, il nous reste 1 minute 30 secondes pour terminer l'émission. Je vous demande un mot en guise de conclusion.
Voilà. Donc, ce que nous pouvons dire, monsieur le journaliste, tout en vous remerciant de l'opportunité de nous offrir pour nous adresser à l'opinion tant nationale qu'internationale, c'est pour dire que la province du Qatar oriental a travaillé et le bilan est largement
merci.
Positif
merci,
dans son programme d'action.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Franck Poyi, un mot aussi pour conclure l'émission Batoucha à sa fin.
La population du Kasaï oriental, et celle particulièrement de l'Amiba, doit ouvrir l'œil et le bon. C'est la calamité qui nous gère. Il faut ouvrir l'œil et le bon pour sortir de l'impasse.
Merci, voilà. Merci maître. Maître Soudi, un mot en guise de conclusion.
Merci beaucoup. J'apprécie la stabilité institutionnelle de la province du Kasaï oriental, mais seulement, il faudra que l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale puissent se servir des erreurs du passé pour améliorer la mise en œuvre de la décentralisation de la province.
Merci. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux collègues de Radio Kapi Mbujimayi pour leur contribution à cette émission. Réalisation, Kéline Fouté, Samuel Kachak. Supervision, Ben Kabamba. Coordination technique, Patrick Kiasongwa. Mise en onde, Jean-Claude Nsia. La présentation, Alain Roumouchi. Ensuite, le programme sur Radio Kapi, la radio de la paix. Merci à vous de nous avoir suivis.
Oh, Kathy,